nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Nous passons une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Ah, il est là ! Dans la grande salle des séances de l'Institut. Qui ? Mais Voltaire, voyons ! Il avait passionnément cherché à être reçu à l'Académie et « enfant amoureux de la célébrité », disait Sainte-Beuve. Malgré l'opposition ardente du parti religieux soutenu par le roi, il fut enfin élu à l'unanimité le 2 mai 1746. Quoiqu'éloigné de l'Académie, il ne cessa pas de s'en occuper dans la correspondance qu'il entretenait avec tous les philosophes et les littérateurs de son temps. Et lorsqu'en 1778, l'année de sa mort, il voulut revoir Paris, il se rendit plusieurs fois à l'Académie où il fut reçu comme un souverain. Après sa mort, l'Académie tint une séance solennelle en son honneur et donna pour l'année suivante son éloge comme sujet du concours d'éloquence. Lorsque Voltaire, âgé de près de 84 ans, quitte ce monde, il laisse une œuvre monumentale. Plus de 2 siècles après sa mort, il est toujours l'un des écrivains français les plus étudiés, non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Cette situation s'explique par l'extraordinaire richesse des œuvres voltairiennes, en volume comme en contenu. La curiosité, l'enthousiasme et la fantaisie amènent Voltaire à se pencher sur tous les sujets. L'histoire, la politique, la philosophie, la religion, les mœurs, les sciences, les arts, les lettres, c'est-à-dire toutes les activités humaines. De plus, il conduit ses lecteurs à parcourir le monde entier. René Pommeau, le grand spécialiste de Voltaire, au fauteuil duquel a succédé notre amie l'académicienne Marianne Bastide-Bruguière, a bien souligné la nécessité d'une équipe internationale multicompétente pour renouveler les études voltairiennes. À la suite de tous les travaux réalisés dans le monde entier, sur les thèmes les plus divers, Shun Xing Song propose son Voltaire et la Chine. La Chine a occupé une place considérable dans la pensée des Lumières, souligne Henri Coulet dans sa préface. La civilisation chinoise était née et s'était développée de longs siècles avant celle de l'Antiquité païenne et de la Bible. Des lois, des institutions, une morale, une religion, des arts, des techniques, qu'on connaissait mieux à mesure que les voyageurs et les missionnaires en portaient témoignage et que l'on s'instruisait de la langue du pays. Prouvait qu'indépendamment de la sagesse gréco-latine et de la tradition judéo-chrétienne, des hommes avaient pu concevoir et réaliser à leur façon la justice et le bonheur. Mais avait-il une religion? N'était-il pas athée? Et s'il l'était, ne devait-on pas en conclure, puisqu'on les peignait comme sociables, polis, savants, équitables, que la morale pouvait exister sans la religion? La longue et difficile controverse sur les rites chinois, qui opposa les jésuites à la papauté, et dans laquelle les philosophes prirent parti après les théologiens, n'est pas la seule bataille intellectuelle où la Chine ait été impliquée, continue Henri Coulet. Au dogme de la chute et de la corruption originelle, les philosophes opposèrent la civilisation chinoise, œuvre d'hommes que la rédemption n'avait pas touchée. Au fanatisme auquel ils attribuaient les autodafés de l'Inquisition, le massacre de la Saint-Barthélemy, les dragonnades et la révocation de l'édit de Nantes, ils opposèrent la tolérance des empereurs chinois envers le catholicisme, le bon accueil fait aux missionnaires que leurs propres dissensions rendirent insupportables et firent chasser, à la mystique violente et visionnaire des saints, à la superstition des dévots, la sagesse de Confucius, ce saint déiste et laïque, ce Socrate chinois. La Chine fournissait des arguments au rationalisme déiste ou athée contre toute la philosophie qui fondait la valeur de l'homme sur son rapport avec le divin. Jean-Jacques Rousseau le comprit. Il ne voulut voir dans le peuple chinois qu'un peuple esclave et destiné à le rester jusqu'à la fin des siècles. Peuple illettré, lâche, hypocrite et charlatan qui ne connaissait d'autre humanité que les salutations et les révérences. Rousseau attaque ici, par ses propos qu'il fait tenir au Saint-Preux de sa nouvelle Héloïse, les philosophes de la raison, qui espèrent dans le progrès et font confiance à la société plus qu'à la nature. au premier rang de ces philosophes se situe Voltaire. Voltaire a consacré tout un chapitre du siècle de Louis XIV aux disputes sur les cérémonies chinoises, écrit une pièce philosophique intitulée « L'orphelin de la Chine », dédié une épître au charmant roi de la Chine, rédigé un article de son dictionnaire philosophique appelé « Catéchisme chinois » et fait dialoguer dans les entretiens chinois un jésuite et un mandarin. Notre auteur, Shun Xing Song, étudie savamment les sources, le travail de transposition, les erreurs, les intentions de Voltaire dans ses quelques œuvres. Il met en valeur que jusque dans la dernière période de sa vie, l'intérêt de Voltaire pour la Chine n'a jamais faibli et que cet intérêt a porté sur ses aspects les plus divers. Connaissant la langue et la civilisation de la Chine comme un enfant du pays, il a pu établir que Voltaire s'est donné la peine de rechercher les détails vrais en historien, en anthropologue qui s'attache au sérieux de son information. Donnons-lui la parole. Le début du chapitre 39, le dernier, du siècle de Louis XIV, va vous être lu. Il s'intitule « Dispute sur les cérémonies chinoises, comment ces querelles contribuèrent à faire proscrire le christianisme à la Chine ».
Ce n'était pas assez pour l'inquiétude de notre esprit que nous disputassions, au bout de 1700 ans, sur des points de notre religion. Il fallut encore que celle des Chinois entrât dans nos querelles. Cette dispute ne produisit pas de grands mouvements, mais elle caractérisa plus qu'aucune autre cet esprit actif, contentieux et querelleur qui règne dans nos climats. Le jésuite Matthieu Ricci, sur la fin du XVIIe siècle, avait été un des premiers missionnaires de la Chine. Après Ricci, beaucoup d'autres jésuites pénétrèrent dans ce vaste empire et, à la faveur des sciences de l'Europe, ils parvinrent à jeter secrètement quelques semences de la religion chrétienne parmi les enfants du peuple qu'ils instruisirent comme ils purent. Des dominicains qui partageaient la mission accusèrent les jésuites de permettre l'idolâtrie en prêchant le christianisme. La question était délicate, ainsi que la conduite qu'il fallait tenir à la Chine. Les lois et la tranquillité de ce grand empire sont fondées sur le droit le plus naturel ensemble et le plus sacré, le respect des enfants pour leur père. À ce respect, ils joignent celui qu'ils doivent à leur premier maître de morale et surtout à Confuzé, nommé par nous Confucius, ancien sage qui, près de 600 ans avant la fondation du christianisme, leur enseigna la vertu. Les familles s'assemblent en particulier, à certains jours, pour honorer leurs ancêtres. Les lettrés, en public, pour honorer Confuzé. On se prosterne, suivant leur manière de saluer les supérieurs, ce que les Romains qui trouvèrent cet usage dans toute l'Asie appelèrent autrefois « adorer ». On brûle des bougies et des pastilles. Des colaos, que les Portugais ont nommés mandarins, égorgent deux fois l'an autour de la salle où l'on vénère Confuzé des animaux dont on fait ensuite des repas. Ces cérémonies sont-elles idolâtriques? Sont-elles purement civiles? Reconnaît-on ses pères et Confuzé pour des dieux? Sont-ils même invoqués seulement comme nos saints? Est-ce enfin un usage politique dont quelques Chinois superstitieux abusent? C'est ce que des étrangers ne pouvaient que difficilement démêler à la Chine et ce qu'on ne pouvait décider en Europe. Les Dominicains déférèrent les usages de la Chine à l'Inquisition de Rome en 1645. Le Saint-Office, sur leur exposé, défendit ces cérémonies chinoises jusqu'à ce que le pape en décida. Les jésuites soutinrent la cause des Chinois et de leurs pratiques, qu'il semblait qu'on ne pouvait proscrire sans fermer toute entrée à la religion chrétienne dans un empire si jaloux de ses usages. Ils représentèrent leurs raisons. L'Inquisition, en 1656, permit aux lettrés de révérer Confuzé et aux enfants chinois d'honorer leur père en protestant contre la superstition s'il y en avait. L'affaire étant indécise et les missionnaires toujours divisés, le procès fut sollicité à Rome de temps en temps. Et cependant, les jésuites qui étaient à Pékin se rendirent si agréables à l'empereur Kam Yi, en qualité de mathématicien, que ce prince, célèbre par sa bonté et par ses vertus, leur permit enfin d'être missionnaires et d'enseigner publiquement le christianisme. Enfin, en 1692, le christianisme fut permis à la Chine par les soins infatigables et par l'habileté des seuls jésuites. Il y a dans Paris une maison établie pour les missions étrangères. Quelques prêtres de cette maison étaient alors en Chine. Le pape, qui envoie des vicaires apostoliques dans tous les pays qu'on appelle les parties des infidèles, choisit un prêtre de cette maison de Paris, nommé Maigrot, pour aller présider en qualité de vicaire à la mission de Chine, et lui donna l'évêché de Conon, cette petite province chinoise dans le Fokien. Ce Français, évêque à la Chine, déclara non seulement les rites observés pour les morts, superstitieux et idolâtres, mais il déclara les lettrés athées. C'était le sentiment de tous les rigoristes de France. Les jésuites eurent alors à combattre les missionnaires, leurs confrères plus que les mandarins et le peuple. Ils représentèrent à Rome qu'il paraissait assez incompatible que les Chinois fussent à la fois athées et idolâtres. On reprochait aux lettrés de n'admettre que la matière. En ce cas, il était difficile qu'ils invoquassent les âmes de leur père et celles de Confuzé. Un de ces reproches semble détruire l'autre, à moins qu'on ne prétende qu'à la Chine on admet le contradictoire, comme il arrive souvent parmi nous. Mais il fallait être bien au fait de leur langue et de leurs mœurs pour démêler ce contradictoire. Le procès de l'Empire de la Chine dura longtemps en cour de Rome. Cependant, on attaqua les jésuites de tous côtés. Cette querelle, qui fut aussi vive que puérile, envenima celle des cérémonies. Et enfin, le pape Clément XI envoya l'année d'après un légat à la Chine. Il choisit Thomas Maillard de Tournon, patriarche titulaire d'Antioche. Le patriarche ne put arriver qu'en 1705. La cour de Pékin avait ignoré jusque-là qu'on la jugeait à Rome. Cela est plus absurde que si la République de Saint-Marin se portait pour médiatrice entre le Grand Turc et le royaume de Perse. L'empereur Kam Yi reçut d'abord le patriarche de Tournon avec beaucoup de bonté. Mais on peut juger quelle fut sa surprise quand les interprètes de ce légat lui apprirent que les chrétiens qui prêchaient leur religion dans son empire ne s'accordaient point entre eux et que ce prélat venait pour terminer une querelle dont la cour de Pékin n'avait jamais entendu parler. Le légat lui fit entendre que tous les missionnaires, excepté les jésuites, condamnaient les anciens usages de l'empire et qu'on soupçonnait même Sa Majesté chinoise et les lettrés d'être des athées qui n'admettaient que le ciel matériel. Il ajouta qu'il y avait un savant évêque de Conon qui expliquerait tout cela si Sa Majesté daignait l'entendre. La surprise du monarque redoubla en apprenant qu'il y avait des évêques dans son empire. Mais celle du lecteur ne doit pas être moindre en voyant que ce prince indulgent poussa la bonté jusqu'à permettre à l'évêque de Conon de venir lui parler de la religion contre les usages de son pays et contre lui-même. L'évêque de Conon fut admis à son audience. Il savait très peu de chinois. L'empereur lui demanda d'abord l'explication de 4 caractères peints en or au-dessus de son trône. Maigrot n'en put lire que 2. Mais il soutint que les mots « King Tien » que l'empereur avait écrit lui-même sur des tablettes ne signifiaient pas « Adorer le Seigneur du ciel ». L'empereur eut la patience de lui expliquer par interprète que c'était précisément le sens de ces mots. Il daigna entrer dans un long examen Il justifia les honneurs qu'on rendait aux morts. L'évêque fut inflexible. On peut croire que les jésuites avaient plus de crédit à la cour que lui. L'empereur, qui par les lois pouvait le faire punir de mort, se contenta de le bannir. Il ordonna que tous les Européens qui voudraient rester dans le sein de l'Empire viendraient désormais prendre de lui des lettres patentes et subir un examen. Pour le légat de Tournon, il eut ordre de sortir de la capitale. Dès qu'il fut à Nankin, il y donna un mandement qui condamnait absolument les rites de la Chine à l'égard des morts et qui défendait qu'on se servît du mot dont s'était servi l'empereur pour signifier le dieu du ciel. Alors le légat fut relégué à Macao, dont les Chinois sont toujours les maîtres, quoi qu'ils permettent aux Portugais d'y avoir un gouverneur. Tandis que le légat était confiné à Macao, le pape lui envoyait la barrette, mais elle ne lui servit qu'à le faire mourir cardinal. Il finit sa vie en 1710. Les ennemis des jésuites leur imputèrent sa mort. Ils pouvaient se contenter de leur imputer son exil. Ces divisions parmi les étrangers qui venaient instruire l'Empire décréditèrent la religion qu'ils annonçaient. Elle fut encore plus décriée lorsque la cour, ayant apporté plus d'attention à connaître les Européens, sut que non seulement les missionnaires étaient ainsi divisés, mais que parmi les négociants qui abordaient à Canton, il y avait plusieurs sectes ennemies jurées l'une de l'autre. L'empereur Camille mourut en 1724. Son quatrième fils, Yan Qing, nommé par lui à l'Empire au préjudice de ses aînés, prit possession du trône. Les jésuites avaient déjà plusieurs églises publiques, et même quelques princes du sang impérial avaient reçu le baptême. On commençait à craindre des innovations funestes dans l'Empire. Les malheurs arrivés au Japon faisaient plus d'impression sur les esprits que la pureté du christianisme, trop généralement méconnue, n'en pouvait faire. On sut que, précisément en ce temps-là, les disputes qui aigrissaient les missionnaires des différents ordres les uns contre les autres avaient produit l'extirpation de la religion chrétienne dans le Tonkin. Et ces mêmes disputes, qui éclataient encore plus à la Chine, indisposèrent plus les tribunaux contre ceux qui, venant prêcher leur loi, n'étaient pas d'accord entre eux sur cette loi même. Enfin, on apprit qu'à Canton, il y avait des Hollandais, des Suédois, des Danois, des Anglais, qui, quoique chrétiens, ne passaient pas pour être de la religion des chrétiens de Macao. Toutes ces réflexions réunies déterminèrent enfin le suprême tribunal des rites à défendre l'exercice du christianisme. L'arrêt fut porté le 10 janvier 1724.
Témoin des conflits d'ordre théologique en Europe, notre philosophe aurait-il prévu, s'interroge Xun Xing Song, dans sa conclusion, les divergences de ses lecteurs au sujet de sa religion et préféré avoir recours à l'empire du milieu pour pouvoir mieux illustrer sa pensée. De toutes les façons, le choix des différents aspects de la Chine, telle la religion des lettrés, la politique du gouvernement, la philosophie de Confucius, lui permettent d'exposer sa religion, ses idées politiques, sa philosophie, à partir de modèles concrets. Son ardeur sinophile est due à sa déception devant certains aspects de l'Europe. Le sujet de la religion en est un exemple démonstratif. À la troisième conférence de son ouvrage « Entretien chinois », Voltaire précise sa préférence pour la religion des lettrés chinois face au christianisme des Européens. Il fait présenter par le personnage du jésuite au mandarin la situation du christianisme en Europe. Il est vrai que dans notre Europe, le réformé, le protestant, le moliniste, le janséniste, l'anabaptiste, le méthodiste, le morane, le mennonite, l'anglican, le quaker, le piétiste, le coxéien, le voétien, le socinien, l'unitaire rigide, le millénaire, veulent chacun tirer à eux la vérité, qu'ils la mettent en pièces et qu'on a bien de la peine à en rassembler les morceaux. Voltaire Candide a été toute sa vie à la recherche de son utopie, en quête du meilleur des mondes. Et c'est ailleurs. Il l'a trouvé dans l'Empire du Milieu. Il se réfère à la Chine car des lettrés
disciple de Confucius, pratique des rites qui sont conformes à son principe de vérité, à son déisme ou théisme. La doctrine de Confucius, utilisée par Voltaire comme référence, tantôt religieuse, tantôt philosophique, est avant tout un enseignement moral. Vous allez entendre un extrait du catéchisme chinois tiré du dictionnaire philosophique. Il s'agit du second entretien de Ku Su, disciple de Confucius, avec le prince Ku, fils du roi de Lu, tributaire de l'empereur chinois Gnen Van, 417 ans avant notre ère vulgaire.
Ku Su, vous convenez donc qu'il y a un être tout-puissant, existant par lui-même, suprême artisan de toute la nature. Ku, oui, mais s'il existe par lui-même, rien ne peut donc le borner. Il est donc partout. Il existe donc dans toute la matière, dans toutes les parties de moi-même. Pourquoi non ? Je serai donc moi-même une partie de la divinité. Ce n'est peut-être pas une conséquence. Ce morceau de verre est pénétré de toutes parts de la lumière. Est-il lumière, cependant, lui-même ? Ce n'est que du sable et rien de plus. Tout est en Dieu, sans doute. Ce qui anime tout doit être partout. Dieu n'est pas comme l'empereur de la Chine qui habite son palais et qui envoie ses ordres par des kolaos. Dès là qu'il existe, il est nécessaire que son existence remplisse tout l'espace et tous ses ouvrages. Et puisqu'il est dans vous, c'est un avertissement continuel de ne rien faire dont vous puissiez rougir devant lui. Que faut-il faire pour oser ainsi se regarder soi-même sans répugnance et sans honte devant l'être suprême ? Être juste. Et quoi encore ? Être juste. Mais la secte de Laocium dit qu'il n'y a ni juste ni injuste, ni vice ni vertu. La secte de Laocium dit-elle qu'il n'y a ni santé ni maladie ? Non, elle ne dit point une si grande erreur. L'erreur de penser qu'il n'y a ni santé de l'âme, ni maladie de l'âme, ni vertu, ni vice, est aussi grande et plus funeste. Ceux qui ont dit que tout est égal sont des monstres. Est-il égal de nourrir son fils ou de l'écraser sur la pierre ? De secourir sa mère ou de lui plonger un poignard dans le cœur ? Vous me faites frémir. Je déteste la secte de Laocium. Mais il y a tant de nuances du juste et de l'injuste. On est souvent bien incertain. Quel homme sait précisément ce qui est permis ou ce qui est défendu ? Qui pourra poser sûrement les bornes qui séparent le bien et le mal ? Quelles règles me donnerez-vous pour les discerner ? Celle de Confucius, mon maître. Vis comme en mourant tu voudrais avoir vécu. Traite ton prochain comme tu veux qu'il te traite. Ces maximes, je l'avoue, doivent être le code du genre humain, mais que m'importera en mourant d'avoir bien vécu ? Qui gagnerai-je ? Cette horloge, quand elle sera détruite, sera-t-elle heureuse d'avoir bien sonné les heures ? Cette horloge ne sent point, ne pense point. Elle ne peut avoir des remords. Et vous, en avez quand vous vous sentez coupable. Mais si après avoir commis plusieurs crimes, je parviens à n'avoir plus de remords, alors il faudra vous étouffer. Et soyez sûr que parmi les hommes qui n'aiment pas qu'on les opprime, il s'en trouvera qui vous mettront hors d'état de faire de nouveaux crimes. Ainsi Dieu qui est en eux leur permet. Ainsi Dieu qui est en eux leur permettra d'être méchants après m'avoir permis de l'être ? Dieu vous a donné la raison. N'en abusez ni vous ni eux. Non seulement vous serez malheureux dans cette vie, mais qui vous a dit que vous ne le seriez pas dans une autre ? Et qui vous a dit qu'il y a une autre vie ? Dans le doute seul, vous devez vous conduire comme s'il y en avait une. Mais si je suis sûr qu'il n'y en a point, je vous en défie.
La doctrine confucéenne de l'invariable milieu apprend au peuple chinois à préférer le centre à l'extrémité, c'est-à-dire à garder la modération d'esprit. Et on retrouve bien ici la religion de Voltaire quand il condamne les deux extrémités. Superstition fanatique et athéisme. Au XVIIIe siècle, avant que le mot de sinologie ne soit né, Voltaire, séduit par ce pays philosophique et lointain, se considère sans aucun complexe comme un sinologue. Bien qu'il n'ait rencontré des Chinois qu'une seule fois, et qu'il soit dans l'ignorance la plus complète de leur langue, pour laquelle il confesse n'avoir aucune compétence. L'idéalisme donquichotesque de Voltaire, conclut Shun Xing Song, explique son enthousiasme pour la Chine. De tous les pays qu'il a pu évoquer, la Chine est probablement celui qui suscite chez lui à la fois le plus de louanges et le moins de critiques. Et un intérêt indéfectible jusqu'à la fin de sa vie.
La rédaction de Canal Académie.